Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il y a quand même quelque chose dans l'air. Bien sûr, on peut se demander pourquoi les gens ne s'autorisent pas plus souvent à sortir sur le pas de leur maison avec leur instrument ou à dédier une partie de la terrasse de leur local associatif à un concert impromptu. On peut se demander pourquoi cela ne chante pas plus régulièrement à 7 ou à 10 sous les ponts pour profiter de la résonance. On peut aussi regretter que ça finisse en beuverie, pas toujours joyeuse, pas toujours glorieuse. On peut regretter que la musique ne soit pas davantage présente dans les EHPAD, dans les hôpitaux de jour, dans les centres aérés, dans les écoles même. Mais on peut aussi se réjouir que la fête de la musique continue de mettre quelque chose dans l'air. C'est donc à la fête que nous sommes avec vous ce soir. Vanessa Wagner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous participez le 6 juillet prochain à un grand marathon de piano organisé par la Philharmonie de Paris. Et votre disque consacré à Franz Liszt et à Arvo Pärt sortira le 31 août prochain. Ça donnera aussi lieu à un concert à la Philharmonie de Paris. C'est entre autres actualité, puisqu'on peut aussi parler du Festival de Chambord dont vous êtes la directrice artistique, qui s'ouvre le 30 juin, qui dure jusqu'au 14 juillet, dont on disait derrière la vitre que c'était tout simplement quelque chose de formidable. Soyez donc la bienvenue. Merci. Je dis il y a quelque chose dans l'air, parce que je fais partie des gens qui n'ont pas renoncé à trouver ça assez joyeux, la fête de la musique le 21 juin. Juste peut-être l'idée qu'il y ait le mot fête et le mot musique dans une seule désignation pour un seul jour.
Bien sûr, c'est un événement, alors effectivement, qui peut parfois être un petit peu galvaudé, mais qui, et puis dont on regrette qu'il soit pas fêté un peu plus souvent. Mais ces fêtes populaires autour du mot musique sont de toute façon joyeuses et positives, tout à fait.
Et ça nous emmène vers quelque chose qui est au cœur de, non pas peut-être votre travail d'interprète personnel, mais tout ce que vous développez autour de la musique et qui a à voir avec la fête au sens de son ouverture, au sens de son invitation. Il me semble que c'est quelque chose que vous défendez beaucoup.
C'est vrai que parfois la musique classique, ce qu'on appelle musique classique, s'enferme elle-même. Et alors, essayer en tant qu'interprète d'ouvrir des frontières, d'ouvrir des œillères, que justement des sortes de préjugés que certains ont sur la musique savante, grande musique, de musique bourgeoise, enfin, tous ces préjugés-là, tous ces poncifs, tous ces clichés tombent, que les publics se mélangent. La fête de la musique peut être peut-être un bon moyen, mais il y a plein d'autres moyens et je crois que c'est aux interprètes, à nous aussi, d'œuvrer dans ce sens-là. Et en fait, c'est vrai que moi, dans ma carrière de musicienne, je, pendant un moment, je trouvais pas complètement mon équilibre, mon bonheur aussi, tout simplement. Et c'est en développant des projets, ce qu'on appelle éclectiques ou un petit peu atypiques, que j'ai aussi trouvé ma voie, mon cheminement, que d'aucuns qualifient de singulier, mais en tout cas, c'est pour moi devenu quelque chose de très important, très essentiel. Et quand je vois aujourd'hui un petit peu plus d'ouverture à la fois chez les gens qui font ce métier, c'est-à-dire soit les musiciens, soit les critiques, soit les producteurs de disques, et puis bien sûr dans le public, ça me ravit. Et participer moi en tant que pianiste, entre guillemets, classique, à un piano marathon qui est organisé dans ce festival Days Of, qui est un festival de pop, musique électronique, etc. Ça m'enchante parce que tout d'un coup, je me retrouve de passer de la Philharmonie, grande salle de concert, à la Philharmonie avec Murkoff, donc mon compagnon d'expérimentation électronique. Voilà, ça me remplit de joie.
C'était un projet précédent, ce travail que vous aviez fait avec Murkoff. Et à cette occasion, vous précisiez bien qu'il ne s'agissait pas de donner un avenir à la musique classique en passant par l'électronique, et que l'idée l'hybridation n'était pas tant à cet endroit-là qu'à l'endroit des personnes que ça pouvait réunir. C'est toujours dans ce sens-là que vous pensez les choses?
C'est dans ce sens-là, mais il y a aussi bien sûr une vraie envie de travailler autrement, d'expérimenter des nouveaux chemins, et c'est aussi pour moi un moyen d'avoir abordé la musique minimaliste que j'adore, mais qui est un tout petit peu moins bien considéré, enfin, même si ça tend aussi ça à changer un peu, mais ça a été un peu dédaigné pendant longtemps et encore aujourd'hui par une certaine partie des musiciens classiques. Donc pour moi ça a été un moyen d'ouvrir mes frontières aussi personnelles, et puis d'aussi d'allier j'ai écouté énormément évidemment de musique classique toute ma vie, j'en ai fait mon métier, mais j'ai aussi beaucoup apprécié et écouté de la musique électronique, donc voilà, c'était aussi une façon de sortir là aussi des clichés des musiciens classiques qui disent que la musique électronique c'est un peu un sous-genre.
On prend un petit peu d'avance en entendant ça, Vanessa Wagner. C'est un extrait d'un disque à paraître le 31 août. Vous êtes emparée, alors je ne sais pas exactement de combien. Du coup, moi, je sais qu'on peut écouter Cantique d'amour, là, mais je ne sais pas combien d'harmonies poétiques et religieuses vous avez mis dans ce disque-là de Franz Liszt.
7.
Qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là?
Alors, le choix de Franz Liszt, en fait, il a été même pour moi assez surprenant, parce que j'ai longtemps dit que je jouerais jamais la musique de Liszt, et c'est vrai que je me sentais pas du tout d'acquaintance avec cette musique. Je l'ai longtemps boudée, pas écoutée, pas méprisée du tout, parce que je connaissais déjà son œuvre de la fin, mais voilà, ça représentait pour moi ce que j'avais pas envie d'expérimenter, c'est-à-dire le grand piano roi, le soliste avec un ego démesuré, la technique qui devait dépasser absolument tout, et c'était assez loin de mes envies et de mes aspirations. Et puis en fait, évidemment, il y a que les idiots qui
changent
pas d'avis. Puis moi, je suis je me laisse comme ça guider et changer beaucoup. Et en fait, c'est Pascal Dussapin qui est le grand compositeur et qui a écrit pour moi et qui est un ami très cher, et on est très proches musicalement. Et il m'a très souvent dit mais Liszt, c'est une musique qui est pour toi. Il faut que tu joues ça. Donc c'est vrai que voilà, il me parlait beaucoup de ça.
Je rebondis rebondis juste sur ce conseil-là, parce que ça m'interpelle. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un c'est une musique qui est pour toi, ou plutôt comment vous l'entendez?
Parce qu'il m'avait entendu beaucoup jouer d'abord sa musique, et il trouve que la musique de, enfin, l'univers de la, toute la fin de Franz Liszt, qui est vrai, un univers complètement, presque à l'opposé de tous ses débuts, qui sont très, presque fanfaronnants, et il termine dans un espèce de minimalisme mystique, très étrange. Et moi, j'avais enregistré un disque Scriabine que Pascal avait beaucoup aimé, j'ai enregistré la musique de Du Sapin aussi, bien sûr. Et voilà, il sentait qu'il y avait une possible ramification dans tout ça. Et en fait, à l'occasion d'un de ses concerts, enfin où je jouais sa musique, il m'avait demandé de jouer la musique, tous les lugubres gandoles, Nuages gris, etc., qui est la toute fin. Et puis ensuite, on m'a demandé à l'auditorium de Bordeaux une œuvre absolument stupéfiante qui s'appelle le Via Crucis, qui est avec piano et chœur, et alors là, qui est vraiment aussi très très étrange et complètement, enfin pour le coup, c'est encore plus que minimaliste, c'est totalement épuré, c'est très très sombre, et bon, ça c'est vraiment la musique que j'aime. Et j'ai complété le concert avec 4 harmonies poétiques et religieuses. Et de là, à force de les jouer en concert, pareil, il y a des gens qui m'ont dit « Oh là là, mais ça vous va tellement bien », etc. Donc je me suis un peu laissée prendre. Je me suis enfin réconciliée avec cette musique merveilleuse. Et effectivement, extrêmement profonde, extrêmement... alors, c'est une musique qui est tournée vers la religion, mais qu'on peut détourner, si je puis dire, vers ce qui, moi, me touche, c'est-à-dire ce mysticisme très très puissant et très très intense et très mélancolique et âpre et à la fois alors Cantique d'amour, c'est, je dirais, la dernière pièce qui est la plus, qui a un tout petit côté halo de rose, mais
enfin que j'y quoi.
Oui, petit. Enfin, moi, je l'adore. Mais c'est d'ailleurs une pièce que je n'ai pas mise sur le disque. Ça sera en bonus parce que ça sortira en digital, parce que le disque était trop long, sinon. Mais des pièces comme Pensée des morts, comme
ou comme Bénédiction de Dieu dans la solitude. Enfin, c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Une pièce que j'aimais pas tellement au départ, parce que si il y a une certaine esthétique de jouer Liszt dans les années 80, dont j'explique dans le livret que c'est pas complètement ce avec quoi je m'entends, ben voilà.
Et qui était défini par quoi, en quelques mots, cette esthétique-là?
C'est difficile pour moi de parler d'autres interprètes, mais même avec, par exemple, même Richter, que j'adore, correspond pas entièrement dans cette œuvre-là, ou alors qui était défini par déjà une prise de son un petit peu dure, puis un Liszt un peu tourné justement vers la virtuosité. Mais Brendel parle très très bien de cette œuvre-là, et il dit que en gros c'est une œuvre qui, si elle n'est pas portée par l'interprète, peut devenir un petit peu ennuyeuse, parce qu'elle est très longue, il y a parfois des tunnels, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'art de raconter une histoire et de tenir l'auditeur en haleine, et c'est un fil extrêmement long qu'on doit tenir, c'est prendre l'auditeur par la main et vraiment ne pas le lâcher, et ça j'adore, parce que c'est...
Mais avant de pouvoir faire ça, Vanessa Wagner, de prendre les auditeurs par la main, on sent bien qu'il faut que vous l'ayez comme à l'intérieur du sang, quoi. C'est-à-dire que
alors,
c'est vraiment,
oui,
très,
ça fait
très
partie
proche.
Je pense que pour cet enregistrement, je crois l'enregistrement sur lequel j'ai passé le plus de temps avant d'enregistrer. J'ai dû commencer à les jouer il y a... je dirais 3-4 ans, Bénédiction au moins 2 ans, et je les ai beaucoup joués en concert avant. D'habitude, j'ai fait parfois l'inverse, c'est-à-dire j'ai enregistré, puis après, comme le disque sortait, j'ai joué beaucoup. Ça, et là, c'est une musique où il faut une très très forte maturation, et il faut vivre avec, parce que c'est
une implication très forte.
Extrêmement forte, oui. C'est des vrais voyages intérieurs d'expérience de vie, quoi, je dirais. C'est pas une musique qu'on peut jouer, c'est aussi tout ce... en ça que j'aime tellement vieillir, on va dire. les côtés positifs de prendre de l'âge et de d'amener sa vie à l'intérieur de son art et de ce qu'on a à dire. C'est très puissant.
Dans ce livret-là, vous dites que finalement, vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec Lamartine, qui est à l'origine de ces pièces de Franz Liszt. Quand même, vous êtes allé voir?
Oui, alors, j'avais une vieille édition très belle que m'avait offert mon père. Et quand j'avais, je devais avoir 15-16 ans et je lisais ça en trouvant que vraiment c'était tellement beau, ça exprimait tellement de choses fortes. Et là, c'est vrai que je les ai relues. Ça m'a paru un petit peu désuet et un petit peu alors à la fois charmant et mais bon c'est vrai que je suis
c'était pas l'endroit où vous vouliez prendre ces pièces de Franz Liszt.
Pas du tout, pour moi c'est vraiment beaucoup plus sombre et âpre et pas du tout dans cette espèce d'invocation adolescente et puis encore une fois, alors je suis pas religieuse, donc j'ai pas non plus cette inspiration là. En revanche, on peut c'est tellement tellement humainement fort et puissant qu'on peut trouver son inspiration complètement ailleurs.
D'ailleurs, on sent que quelque chose de plus grand ou quelque chose tout simplement de grand, en fait, existe dans ces morceaux de Franz Liszt, sans nécessairement que ça ait à voir avec Dieu ou avec quelconque religion. On sent juste absolument. Que vous êtes en prise avec des puissances,
absolument, intérieures, extérieures, qui nous ramènent soit à son moi profond avec lequel j'ai joué, mais aussi avec des aspirations extérieures, comme par exemple la nature, et puis la spiritualité qui est, en tout cas pour moi, quelque chose de tout à fait différent de la religion.
Et inhérente à la musique que vous faites ?
Inhérente, pour moi, oui. Alors, je pense qu'il y a peut-être des musiciens qui diraient pas ça. Pour moi, oui. Mais aussi inhérente à ce que je suis en tant que personne dans la vie.
Vous dites que c'est une musique qui a nécessité la maturité, alors la vôtre de l'âge dont vous parliez, mais aussi du temps, de beaucoup la jouer. Ouais. Est-ce que c'est une musique que vous avez eu la sensation d'avoir à étudier, de lire, de peut-être se renseigner sur la composition, le moment historique, le moment de la vie, ou est-ce que c'était pas
alors
forcément...
Je fais pas beaucoup ça. Je sais qu'il y a des musiciens qui passent beaucoup de temps à regarder les partitions, à lire des choses biographiques sur les auteurs. Alors moi, je l'avais fait pas mal avec Scriabine parce que le personnage me passionnait. Liszt, évidemment, il a une vie incroyable, donc j'avais à l'époque plus jeune, j'avais lu pas mal de choses sur sa vie parce que tout simplement j'avais un roman, un roman qui s'appelait La vie de Liszt est un roman. Je sais plus qui avait écrit ça, c'était chez Actes Sud. Donc voilà, j'avais lu pas mal de choses comme ça, mais en fait, j'éprouve pas énormément le besoin de ça. J'éprouve le besoin de m'immerger dans la partition, les notes, ce que ça peut évoquer en moi, ce que ça peut travailler, ce que ça peut aller chercher de nouveau, ce que ça peut... Voilà, c'est plus ça, ce temps passé chez moi, en concert, après les concerts. J'ai aussi assez peu écouté d'enregistrements. J'ai écouté Ciccolini parce que c'était celui qui me semblait le plus fort pour moi. Mais finalement, je m'en suis aussi, pas détachée, mais j'ai eu envie aussi de
trouver votre propre chemin là-dedans. Et ce chemin-là, il a évolué au fur et à mesure des années. Vous avez vu que votre lecture, votre façon de jouer Liszt bougeait.
Ça a beaucoup bougé, encore une fois, parce que c'est une musique qui fait appel à une immense profondeur. Et donc, c'est pas seulement jouer mieux les notes, quoi. C'est juste que... Et c'est la magie, la beauté, le mystère de ce métier d'interprète. C'est-à-dire que... c'est jamais fini et c'est un sillon qui se creuse et qui parfois se dévie et où on revient, où on repart, et ça appelle des choses. Je dis souvent que la musique est une magnifique psychanalyse, mais il y a de ça, où aller chercher des choses qu'on ignorait en soi, et puis aussi ça découvre des choses en soi, et puis parfois on n'y arrive pas. Et par exemple, avant cet enregistrement, j'ai pris quasiment un mois et demi sans concert pour totalement m'immerger, parce que c'est aussi je rapproche ça de le moment où j'ai côtoyé Scriabine, mais c'est pas une musique qui laisse indemne. C'est-à-dire que c'est tellement fort, tellement puissant que ça nécessite, je dirais, une quasi exclusivité,
une grande disponibilité.
Ouais, vraiment. Je suis arrivée complètement dedans au moment de l'enregistrement. Et puis bon, faut pas oublier que j'ai aussi ajouté, même si c'est dans le temps du disque beaucoup plus court, mais la musique d'Arvo Pärt.
J'allais y venir. C'est quand même ce dialogue aussi que peut-être votre lecture de Liszt est colorée, on va dire, d'un point de vue météorologique, par celle d'Arvo Pärt qu'on écoute.
Das sind wie weite Bäume, die sehr weit sind, dass wir können nicht unterscheiden, welches Baum ist näher und welcher ist weiter. Aber natürlich sind die wachsen nicht in einer Reihe. Und so ist auch mit dieser Tabula Rasa. Es hat viele Seiten. Manchmal sind einige für mich näher, einige weiter. Es hängt davon ab, wo ich bin.
Ce sont des arbres qui sont très loin. On ne peut pas distinguer lequel est le plus loin, lequel est le moins loin. Et pourtant, ils ne sont pas plantés sur la même rangée. C'est comme tabula rasa. Il y a plusieurs aspects, et avec la distance, on ne peut savoir lequel est le plus éloigné.
Ich möchte das nicht konkretisieren, aber alle wissen, was bedeutet Tabula Rasa, und es bietet genug, vielleicht zu denken und fühlen, Möglichkeiten.
Je ne veux pas concrétiser cela. Tout le monde sait ce que veut dire Tabula Rasa. Cela donne suffisamment à penser, à sentir.
Ja, und zum Erst muss man diese Musik bis zum Ende hören, und dann ist... Ja, wenn, oder sagen wir so, es gibt einen Unterschied, wenn ich lese Tabula Rasa und habe diese Musik nicht gehört. Und jetzt höre ich da dieses Werk bis zum Ende, und dann es ist eine andere Bedeutung, dieser Titel bekommen.
Il faut d'abord écouter cette musique en son entier. Ou disons, il y a une différence entre entendre le titre avant d'avoir écouté la musique et après l'avoir écouté. Après, une autre signification apparaît.
C'est assez rare d'entendre sa voix. C'est une archive de 1986. Avant Pärt, on disait tout à l'heure, Vanessa Wagner, que peut-être votre lecture ou votre interprétation de Franz Liszt, elle était colorée, au sens où les nuages colorent quelque chose, portent une ombre, par le côtoiement d'Avant Pärt. Vous sembliez assez émue d'entendre sa voix.
Très émue. En plus, alors Tabula Rasa, c'est vraiment une œuvre que j'aime.
Dont il parle, ouais.
Ouais, c'est vraiment une œuvre pour moi extraordinaire, et qui, ben voilà, là, à l'instant, j'avais les larmes aux yeux, parce que ça fait partie des œuvres que j'ai le plus écoutées, notamment une fois à la Philharmonie en sa présence pour ses 80 ans. Avec Paavo Järvi et Victoria Mulova, j'étais totalement en larmes. C'est une œuvre qui me bouleverse absolument, je pense à tout jamais. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis arrivée à enregistrer sa musique aujourd'hui. Et c'est vrai que cette spiritualité, ce mysticisme dont on parlait pour Franz Liszt, évidemment, s'il y en a un qui l'incarne aujourd'hui extrêmement fortement et avec des moyens totalement différent, bien sûr, de Franz Liszt, mais avec ce fond je crois, très, très puissant et identique. C'est bien Arvo Pärt, avec une musique, voilà, très de facture, on dirait, assez simple et minimale, mais d'une immense puissance. Et ce qu'il dit sur cette espèce de perspective, ça me fait penser à une phrase de Stahl qui dit ça aussi sur l'art pictural est un mur, mais les oiseaux, ils volent librement et à toute profondeur.
Là, on entend, enfin, on voit vraiment une forêt de bouleaux où on ne sait pas exactement quel est l'arbre le plus proche. Je trouve que c'est une image assez incroyable pour décrire, y compris le mouvement qui est dans sa.
Cette espèce de
musique.
Mouvement immobile. Effectivement, et puis de.
Qui vaut pour les notes, on ne sait pas quelle note est plus proche, y compris dans le temps, en fait.
Et puis de évidemment aussi d'une certaine forme de désespérance, enfin à la fois de quelque chose de subliminal et à la fois quelque chose de très. Oui, errant et très, très, très fortement mélancolique. Et donc, c'est vrai que la façon dont j'ai enregistré Liszt était fortement. Imbibé, si je puis dire, de cet amour que j'ai pour cette musique minimale, spirituelle et sombre, et j'ai pas tiré la musique de Liszt vers le côté clinquant et virtuose, ça c'est sûr que, et je trouve d'ailleurs, j'avais un petit peu peur, j'avais pas joué en concert le côtoiement Arvo Pärt et Liszt, et en écoutant le master, ça fonctionne, en tout cas de mon point de vue, ça fonctionne incroyablement bien.
J'ai l'impression que moi ça la creuse, la musique de Liszt.
Ça la creuse et ça lui donne, oui, cette, je dirais pas coloration, mais peut-être pas de décoloration non plus, parce que Dieu sait que c'est pas du tout ça, mais ça l'attire vers ce qui m'a attiré moi vers Liszt, c'est-à-dire vers ce côté à la fois plein de notes et en même temps, oui, très, 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 très spirituel et mélancolique.
Comment vous découvrez la musique d'Arvo Pärt?
Eh bien, assez tard, parce que comme je l'ai dit au début, la musique minimaliste est assez dédaignée. Je me souviens quand j'ai demandé des places pour aller à ce concert de la Philharmonie, c'était avec l'Orchestre de Paris, et il y a quelqu'un de l'Orchestre de Paris qui me dit « Ah bon, tu vas écouter Arvo Pärt ?» C'était
il y a longtemps.
C'était il y a quelques années. C'était non, il y a pas de longtemps. Enfin, c'était parmi les musiciens, mais il y a pas mal de monde qui c'est pas très difficile à jouer techniquement, on va dire. Donc au conservatoire ou dans nos études, on côtoie pas du tout cette musique. Ça peut être joué par des gens qui savent peu jouer un instrument. Donc voilà, il y a un certain. C'est pas une musique prise très très au sérieux. Et en fait. Moi, j'en ai écouté aussi par l'intermédiaire de la musique électronique que j'ai écouté assez jeune. Et notamment tout le label Warp, etc. Et c'est vrai que Steve Reich, par exemple, je l'ai écouté, je pense, via Fix Twin. En gros, les choses ont été... Donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui feront comme moi. Mais... voilà, c'est vrai que quand j'écoutais Steve Reich il y a maintenant 25 ans, c'était pas complètement.
Mais c'était en passant par Aphex Twin.
Ouais, je crois. Ouais. Enfin, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, voilà, pour moi, les ramifications étaient évidentes de ce côté-là.
C'est dire que les frontières dont on disait en début d'entretien que vous en faisiez pas grand-chose, au contraire, voire que vous aviez plutôt l'habitude de vouloir les passer ou de vouloir les briser. En fait, elle révèle là, y compris dans la manière dont vous cheminez dans la production musicale. Elles n'ont pas tellement lieu d'exister. Si vous allez d'Aphex Twin à Steve Reich et qu'en fait Arvo Pärt, finalement vous y arrivez par Warp, bon bah ça circule.
Ça circule absolument. Ça circule pas assez pour des questions de par un peu d'entre-soi ou de d'habitude.
Mais si on parle de musique.
Ah, si on parle de musique, évidemment que non, évidemment. C'est ce que aujourd'hui, ce que j'essaye de vraiment de d'explorer à chacun de mes pas. Mais de même que, enfin, par exemple, pour parler de mes enregistrements, l'année dernière, j'ai sorti un disque Mozart Clementi sur piano moderne et piano d'époque. Et cette cloison du pianiste qui joue sur piano moderne ou du piano fortiste qui ne jouerait pas sur piano moderne mais que sur piano. Voilà, ça c'est aussi des frontières qui tendent à s'amenuiser un petit peu aujourd'hui, mais qui ont été très très forte encore quelques années. Il y a pour l'instant quasiment, je crois que c'était la première fois que sur un même enregistrement, il y avait donc les frontières, mais c'est des frontières et c'est aussi des choses qu'on a établies comme ça et pour faire tomber ces sortes de murs un peu qui n'ont pas lieu d'être, il faut quand même voilà, c'est des, comment on appelle ça, des traditions. Voilà, le pianiste, il joue sur piano moderne, il doit jouer par cœur, il doit jouer en gros, tel répertoire. Il y a des choses comme ça assez heureusement qui tendent à se dissiper un peu, mais la pression est quand même encore assez forte, je dirais.
Et alors, vous trouvez où la liberté de le faire ?
Dans une nécessité absolue, pour moi. Ça a été, c'est pas du tout un plan de carrière, c'est pas du tout un truc où je me suis dit tiens ça pourrait marcher, etc. C'est vraiment que je ne trouvais pas cette espèce de nécessité de jouer, de concert en concert en jouant du Chopin, ou bien même tout le répertoire que j'adore, je dis souvent on est très nombreux à vouloir ou à faire ce métier depuis maintenant des années la discographie est immense et on peut tous chercher plus ou moins à faire ce métier en jouant alors dans des plus ou moins grandes salles, en étant plus ou moins médiatisé, en étant plus ou moins connu, etc. Mais une façon de faire ce métier qui est, on est tous un petit peu sur le même chemin. Et moi, en fait, je ne trouvais pas, je ne me retrouvais pas là-dedans. Et donc, je me suis toujours sentie un petit peu, pas le mouton noir parce que ça serait trop négatif, mais déjà au conservatoire j'étais pas complètement j'ai pas passé de concours internationaux, j'ai jamais eu envie d'écraser les autres, j'ai jamais eu envie de cette espèce de carrière où on doit passer de concert en concert, d'hôtel en hôtel, d'avion en avion, enfin c'est pas du tout ça qui m'a motivée et je vis avec quelqu'un qui a un label de musique électronique, j'ai beaucoup d'amis j'ai des parents qui sont dans le milieu littéraire. J'ai toujours eu envie de respirer, de pas être l'espèce de petite pianiste prodige comme ça qui est rentrée au conservatoire très jeune. Enfin voilà, tout ça m'a toujours et en même temps cet amour de la musique, j'aime infiniment mon métier, mais pas fait comme j'aurais peut-être dû ou on aurait voulu que je le fasse ou voilà, c'est, et donc il y a eu un moment j'étais je crois que je peux le dire malheureuse à faire ce métier. Je voyais pas le sens, je voyais pas la raison, à part encore une fois d'être un peu plus connue que la voisine ou quoi, enfin c'était pouf. Et en fait puis j'avais envie de me retrouver, voilà, d'être Donc ça aussi, le privilège de l'âge. On est dans un métier où on demande aux musiciens d'être très forts et connus très jeunes, mais en même temps, justement, savoir qui on est, de quoi on a envie, qu'est-ce qui va nous rendre forts, enfin en tout cas forts intérieurement, qu'est-ce qui va nous nourrir, qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Ben c'est aussi en.
Et puis c'est toujours ça de prix pour les personnes qui écoutent, c'est-à-dire que si vous, interprète, avez nourri l'interprétation de tout ça, forcément nous arrive par un endroit ou par un autre.
Mais c'est vrai que c'est pas évident de d'assumer cette liberté-là, et il y a sûrement des endroits où je paye ça, mais j'ai heureusement pu faire ce chemin et aujourd'hui trouver cet espace de liberté, d'exploration, de curiosité qui nourrit à la fois ce que je suis en tant que femme, en tant que personne et en tant que musicienne. Et j'espère aussi, avec un aucune prétention ni rien, mais j'espère trouver un chemin qui soit intéressant pour le public qui écoute.
Et du coup, vous enregistrez à vos pertes.
Absolument.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Je disais, Vanessa Wagner, que forte de cette liberté, vous enregistrez à vos pattes. On vient d'entendre ici un des titres, Für Alina, qui est sur ce disque-là. Comment vous avez fait le choix, du coup? Pour que ça dialogue avec Liszt ou simplement parce que c'était, juste...
Für Alina, c'est comme Tabula Rasa, c'est une de mes œuvres vraiment de prédilection. Enfin, c'est une merveille de... C'est une page, c'est quelques notes, mais il y a une magie incroyable. Et donc ça, j'étais sûre de vouloir enregistrer. Le reste de sa musique pour piano, me convenait pas complètement parce que j'avais déjà enregistré les variations avec Murkoff. Et puis les autres œuvres étaient un tout petit peu moins mélancoliques et moins en accord avec la musique de Liszt. Et donc j'ai choisi deux pièces pour orgue. Et un instrument éminemment religieux et qui passe très bien au piano donc j'ai choisi de les enregistrer avec une sorte de clin d'œil religieux aussi à la musique de Liszt, et ça va très très bien, très très bien ensemble.
Pour continuer un tout petit peu de parler de Für Alina, en dehors du fait que c'est un morceau de cœur et de choix pour vous, Vanessa Wagner, on a beaucoup dit que c'était un moment crucial dans la manière qu'avait Arvo Pärt d'écrire de la musique. C'est un morceau qu'il compose en 1976 et qui place les contours de la musique Tintinnabulie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots?
De cette pièce?
Oui, de cette pièce-là. Et puis pourquoi? Est-ce que pour vous, c'est aussi un moment un peu particulier dans sa musique?
Bah, moi, c'est justement le Arvo Pärt que je préfère, c'est-à-dire qui va vraiment dans les extrêmes et dans les aux frontières
de l'épure,
de ce rapport au temps, ce rapport au silence, à ce minimalisme extrême. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas enregistré les autres pièces pour piano qui sont qu'il a composées avant ça. Et pour moi, c'est vraiment toute la partie de sa musique qui m'intéresse le plus et qui me touche le plus, surtout.
On entendait tout à l'heure Cantique d'amour, donc il fait aussi partie de ce disque que vous enregistrez. Je disais, c'est comme si ça la creusait, mais finalement, en écoutant Fiorellina, je me dis que c'est aussi comme si ça passe à la rendait un peu plus silencieuse qu'elle n'est, la musique de Franz Liszt, mais un peu de cet ordre-là, quoi. C'est comme ça. Si ça mettait du silence chez Franz Liszt.
Ça met du silence et ça met de la perspective avec justement ce côté bouillonnant et très pianistique. Hein. Et c'est vrai que même si ce cycle n'est pas du tout le plus virtuose de la musique de Liszt, ça reste quand même
impressionnant.
Très impressionnant. Et puis, voilà, c'était lui-même un très, très grand virtuose qui écrivait magnifiquement pour piano. Donc, il y a ses funérailles. Mais c'est vrai que ça a tout sous-tendu. Enfin, j'ai tout tiré aussi parce que ma nature profonde est comme ça, mais j'ai tout tiré vers quelque chose de beaucoup, peut-être beaucoup plus sombre que certaines autres interprétations.
En parlant d'interprète.
Dans mon souvenir, la première fois que j'ai entendu Clara Askill, c'était à la radio. Et j'ai tout de suite été capté, mon attention a été captée. J'ai pas pu me décrocher du poste de radio tout le temps que j'ai entendu ce concerto joué par elle. Je devais avoir une petite dizaine d'années. J'entendais qu'il y avait une sonorité absolument extraordinaire et puis qu'il y avait une éloquence, une vocalité dans le jeu qui me donnait l'impression que celle qui jouait ne jouait que pour moi et me parlait à moi seul. Donc elle est devenue une amie. C'est génial, voilà, génial. Et comment elle fait ? Mon Dieu, ses doigts qui courent, mais... Et en même temps, vous entendez, c'est très joyeux, très vif, quoi, c'est cambré. Et c'est absolument fulgurant, fulgurant. Dans ces années-là, il y avait très peu de gens qui jouaient avec cette maîtrise et en même temps cette liberté absolue. C'est incroyable, vraiment. Chapeau, la Clara.
Paris, 22 avril 1907. Ma très chère maman, je t'envoie une photo de moi qui sera sûrement une belle surprise pour toi. J'espère seulement que ta santé va bien. Nous étions contents, moi et l'oncle Avram, que Lily et Jeanne fassent des progrès. J'espère que cette année, je recevrai la première médaille du conservatoire. Nous attendons impatiemment de te voir cet été. Compliments de tonton Avram, Clara.
Clara, pour Clara Askill, c'est un extrait d'un documentaire qui lui est consacré, signé Pascal Kling, Prune Jaillet et Pierre-Olivier François. Et puis on entendait le critique musical Alain Lampèche s'émerveiller de l'interprétation de Clara Askill. Il dit, Alain Lampèche, comment elle fait ? Et peut-être que si le film s'appelle Le Mystère, je pense qu'il y a quelque chose probablement de mystérieux parce que ça tient tellement à la singularité des êtres dans le fait d'interpréter de la musique. Alors on parle de Clara Askill parce que vous en parlez de temps en temps, Vanessa Wagner, mais est-ce que vous savez, vous, avec le temps, ce qui fait un interprète ou une interprète ?
Ah, ça c'est une question très mystérieuse, mais effectivement... Il y a encore peut-être encore plus aujourd'hui une espèce de parmi la pléthore de pianistes et de musiciens de par le monde, une sorte d'uniformisation, notamment du son, parce que justement les concours, parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut voilà, essayer de... Et donc ceux qui se détachent du lot, qui sont d'ailleurs pas obligatoirement, je dirais, les plus...
les plus connus, les plus primés, voilà. Les plus reconnus.
Mais en tout cas, pour moi, un interprète, c'est aussi justement comme Clara Askill. Bon, Clara Askill, moi, pour moi, c'est mon amour d'enfance. C'est Alain Lompèche disait, c'est une amie. Alors pour moi aussi, ça a été une amie, une fée, une reine. J'aimais tellement sa fragilité, sa force. Parce que elle a un jeu à la fois d'une légèreté, d'une inventivité, d'une liberté, et puis en même temps, on croirait qu'elle pourrait être fragile. En fait, elle ne l'est pas. Enfin,
ou en tout cas, c'est une fragilité qui est un endroit de puissance.
Voilà, c'est ça. Et en tout cas, un interprète, c'est sûrement quelqu'un qui se détache par un espèce de ce je ne sais quoi dont on parle, cette espèce de mystère qui fait que cette magie, alors à la fois cette magie du son, mais c'est aussi cette capacité à raconter, à nous emporter avec lui dans un monde que malgré le fait d'avoir écouté une œuvre mille fois, tout d'un coup on redécouvre des choses. Il y en a peu comme ça.
Elle nous est presque dite autrement. Moi, ce que je trouve extrêmement puissant dans la musique que vous interprétez, Vanessa Wagner, c'est que vous la parlez. Alors, j'ai pas du tout envie d'emmener la musique sur le terrain du langage. Quand je dis parler, c'est juste parce que j'ai pas d'autres mots pour
non,
le
non,
dire.
Non, non, mais c'est une forme de langage, après, qui est sûrement plus... C'est ça, d'ailleurs, la beauté du langage musical, c'est le mystère, parce qu'il n'y a pas de mots qui explicitent. Mais c'est une forme de langage qui justement, ouvre des possibles et ouvre en chacun des petites portes, des fenêtres, qui est... interprétable autrement. Donc c'est ça aussi la... Et un grand interprète, évidemment, nous emmène à la fois dans son monde, mais aussi dans le nôtre, en relayant des choses en nous, en évoquant. Je crois que l'interprétation, c'est aussi la puissance évocatrice, c'est aussi... alors pour moi, c'est aussi entrer dans une intimité. Je trouve que l'intimité... est extrêmement forte et importante à mettre sur une scène, à mettre dans les oreilles, parce que voilà, c'est pour ça que j'ai tout le côté très show-off de certains interprètes actuels ou de certaines musiques. Moi, en tout cas, ne me parle pas du tout, parce que ce qui m'intéresse, ce qui me touche, c'est d'aller, c'est qu'on me murmure quelque chose à l'oreille, même si c'est dans le forté, mais c'est voilà, c'est ouvrir,
ouvrir. C'est ouvrir, c'est ouais. Vraiment le bon mot. Vous avez parlé d'enregistrement et on va entendre tout de suite Pierre Boulez qui en parle aussi.
Il y a deux choses. Je veux dire, si vous ne faites pas la balance d'orchestre vous-même, enfin en tant que chef d'orchestre, il est évident que l'ingénieur ne pourra jamais rétablir des vraies balances ou il la rétablira d'une façon très artificielle. Tandis que si l'objet qu'on lui donne est déjà bien équilibré, donc lui-même peut travailler d'une façon plus aisée, je dirais, et plus rationnelle et plus logique. Et donc, à ce moment-là, puis il y a des gens qui ont vraiment le maniement de ça, le sens de la sonorité, le sens des équilibres, le sens de la beauté sonore. Je me souviens très bien que, par exemple, quand on commençait un enregistrement, il y avait à peu près un quart d'heure, quelquefois un peu plus, pour entendre tous les groupes instrumentaux, un par un, et puis avec certaines combinaisons, des passages de la partition qui étaient spécialement vétilleux. Et une fois que cet équilibre était établi, qu'il avait ses marques, si je peux dire, donc on commençait l'enregistrement vraiment. Donc il y avait à peu près un quart d'heure, 20 minutes, quelquefois plus même, d'établissement de la règle entre ce que joue l'orchestre, la partition, et la prise de son elle-même. Quand je fais un enregistrement, je tâche de faire des extraits aussi longs que possible. Parce qu'on perd la trajectoire de la musique. Si on prend des petits bouts et qu'on coupe tout le temps la musique, on n'a plus du tout la continuité. Et ce que je fais en général, c'est que je fais ces enregistrements dans la foulée de concerts. C'est-à-dire que tout le monde garde à l'esprit l'exécution de concert. Et que même si on prend à un moment donné, par exemple, s'il y a une petite erreur instrumentale ou quelque chose qui n'est pas tout à fait réussi, que l'instrumentiste veut reprendre, s'il y a un seul instrumental, eh bien, on le reprend, mais on le reprend dans la foulée. On sait où on est. Tandis que ce qu'il y a de pire, c'est quand on morcelle tellement que personne n'a plus aucune notion de la continuité et de la trajectoire de l'œuvre. Donc il y a vraiment quelque chose à préserver quand on fait une séance d'enregistrement, c'est de se dire que l'œuvre est là et pas seulement la perfection. C'est-à-dire que dans un enregistrement, vous n'acceptez pas ce qui n'est pas parfait, en principe. Tandis que dans un concert, vous l'admettez parce que là, le concert, vous prenez le risque de jouer sans arrêter, etc. Donc là, vous avez le risque. Alors quelquefois, le risque, mais ça casse. Comme quelqu'un qui fait de l'acrobatie peut, disons, rater son tour et se casser la figure. C'est comme, je veux dire, vous avez aux deux extrêmes, vous avez Gould qui, alors, ne fait plus de concerts, elle ne fait que des enregistrements. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez Céline Dard qui ne fait plus que des concerts et ne refuse de faire des enregistrements.
On est en 1999, Pierre Boulez est au micro de Pierre Bouteiller. Bon, il faut prendre le risque que l'œuvre soit là, même si l'imperfection n'y est plus. Vanessa Wagner, vous enregistrez des disques, beaucoup, ça fait partie de votre vie de musicienne. Le jouer en concert, ça fait aussi partie de votre vie de musicienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce risque dont parle Pierre Boulez?
C'est vrai que aujourd'hui, avec toute la production discographique, on veut absolument une espèce de perfection à laquelle on habitue l'oreille des auditeurs, que parfois les auditeurs s'attendent à retrouver en concert d'ailleurs. Donc ça donne des jeux comme ça très 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 blindés pour être parfaits. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais bien sûr, le danger en enregistrement, c'est de vouloir à tout prix atteindre cette perfection et faire des découpages, ce qu'on appelle le montage, et que l'œuvre n'y soit plus. Alors moi, j'adore enregistrer parce que j'adore cette intimité de la salle sans public. C'est vraiment un moment pour moi en dehors du temps. C'est vraiment et notamment cet enregistrement que j'ai fait dans la grande salle de l'Arsenal de Metz, c'était merveilleux. Et puis j'aime la proximité avec l'ingénieur du son, le travailler comme ça. Mais je suis incapable de jouer par petits bouts, donc je ne fais quasiment que des prises entières.
Et qui peuvent être ensuite montées en post-production ou vraiment?
Oui, qui peuvent être montées en post-production, mais on a pris des très grands passages parce que aussi je suis arrivée très prête et que une œuvre comme Bénédiction dont on parlait en début d'émission,
c'est un peu dur de monter dedans.
Voilà, c'est des très 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 longues phrases et bien sûr, la musique prime et le discours musical prime et le souffle et l'intensité. Et donc, je crois qu'il y a des musiciens très, 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 très maniaques avec leur montage. Moi, j'essaye de garder le souffle et de pas couper à chaque, évidemment, on laisse pas une fausse note ou un bruit ou, mais voilà, prime, bien entendu, comme le disait Boulez, au geste musical.
En tout début d'archive, il dit qu'il aime à travailler aussi les balances dans le cas de prise de son d'orchestre et que c'est une manière de mettre sa première pierre à l'édifice et de préparer un travail ensuite pour les ingénieurs son. Dans le cas de cet enregistrement à Metz avec François Eckert, vous avez procédé comment?
Alors évidemment, pour un piano solo, c'est beaucoup plus simple que pour un orchestre entier. Et ce qui m'importait, comme à chaque fois, mais encore là un peu plus, c'est d'abord de reconnaître mon son, ce qui n'est pas une chose si naturelle qu'on peut le penser. Donc quand quelqu'un s'approche au plus près du son que j'ai naturellement en concert, ça c'est ce que je recherche. Et là, je voulais aussi un son où je puisse aller dans un extrême pianissimo et un extrême fortissimo, donc avec une amplitude très très large
que nécessitait notamment
la musique de Liszt et aussi les très très pianissimo de Arvo Pärt. Et puis je voulais bien sûr un son religieux, enfin mystique, donc avec un petit peu de réverb. Dans cette salle, la grande salle magnifique de l'Arsenal, il y a une réverbe naturelle, donc on n'a pas eu grand-chose à faire de ce côté-là. Mais j'ai été plus que d'habitude écoutée, et en prenant, je pense qu'on a pris au moins au moins 2 heures pour accéder à cette... Il y a une sorte de magie aussi là-dedans. Et ce que je redoute, c'est les sons bruts, les sons durs, les sons claquants. Voilà, on doit oublier le côté martelé du piano pour aller dans un ruissellement, dans quelque chose où on peut caresser la touche, où on peut donner vraiment une sensualité au son. Et puis aussi de ces recherches de couleurs, quoi, parce que on raconte une histoire, mais on la raconte de façon colorée, et le son du piano. Et là, je reviens à Clara Askill, parce que Clara Askill a été l'amour de mon enfance, et je pense que de l'avoir tellement écoutée, de l'avoir tellement côtoyée comme une amie, ça a aussi ouvert en moi cette espèce d'envie de retrouver cette magie du son comme ça, perlée, extrêmement fluide. Elle a une façon de jouer qui est, on dirait, de l'eau, quoi. Et c'est ça que, avec ce piano à touche dont un marteau vient marteler une corde, on doit faire oublier ça. Et dans un enregistrement, je trouve que c'est, bien sûr, en concert aussi, mais voilà, tout ce qui est trop percussif me brutalise l'oreille. Donc voilà, j'espère qu'on aura réussi là.
Justement, puisque vous ouvrez cette fenêtre vers les concerts, vous dites: j'ai adoré ce moment d'intimité à Metz, d'être dans une salle seule avec un ingé son ou plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas de pas être face au public. J'imagine que vous n'êtes pas non plus sans aimer ce qui se passe quand les salles sont remplies.
Ça déplace beaucoup de choses, ça en ajoute. Bien sûr, parce qu'il y a ça ajoute l'instant présent, quoi, le moment X où on est bien, où on n'est pas bien, où on est détendu, stressé, inspiré, pas inspiré, enfin tout cette espèce de mystère, de magie, de parfois de souffrance, je dirais aussi, hein, parce que c'est pas non plus un métier facile de ce côté-là. Alors moi, il y a un an et demi, j'ai pris une décision qui m'a, je dirais, presque sauvé la vie, et qui a été très difficile à prendre, parce que on parlait tout à l'heure des traditions, des choses qu'on nous impose implicitement ou pas. Par exemple, jouer par cœur pour un pianiste, c'est presque une obligation. Et voilà, moi, il y a un an et demi, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé que c'était fini. Alors, je mets une partition dans le piano, et en fait, j'ai retrouvé. Enfin, je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. J'ai retrouvé le plaisir de jouer en public, parce qu'il y avait j'ai jamais eu de problème de mémoire dramatique. J'ai eu des petits, comme tout le monde, des petites choses comme ça, mais je ne pensais plus qu'à ça, en fait. Et même dans mon travail, je répétais compulsivement pour éviter le trou de mémoire qui, je me disais, un jour ça va m'arriver. Et en fait, je me détachais de la musique, je m'éloignais de la musique, je m'éloignais du bonheur d'être sur scène. Et depuis un an et demi, je pense avoir fait les meilleurs concerts de ma vie. Et j'ai retrouvé cette envie de jouer, ce plaisir à vivre ma vie de musicienne. Et je suis toute entière sur la musique, enfin dans la musique inspirée. Alors je dis pas que je fais que des bons concerts, ça on verra plus tard. Mais en tout cas, le retour que j'ai et le recul que j'ai vis-à-vis de ça, et j'en parle beaucoup parce que je l'ai annoncé.
Ça peut peut-être donner la liberté à d'autres.
Voilà.
Qui sait.
La liberté, c'est un très beau mot qui est de plus en plus malheureusement oublié. Enfin voilà, on n'arrive pas à trouver son espace de liberté parfois, et dans nos vies et dans nos métiers, et d'avoir eu, je pense presque que c'est un courage, hein, parce que c'est pas évident, et des gens comme Alexandre Tarot m'ont beaucoup aidé là-dessus. Il a été il y avait Richter bien avant lui, mais voilà, c'est presque un courage, une chose si anecdotique presque, puisque l'important c'est le moment, c'est ce qu'on donne, c'est la musique, devenait quelque chose de compliqué. Et donc, pour revenir à cette question, j'aime maintenant beaucoup être sur scène.
Grâce. Ça tombe bien, on pourra vous entendre le 6 juillet lors du marathon piano, dans le cadre du festival Days Off à la Philharmonie de Paris. À la Philharmonie de Paris aussi en octobre, à l'occasion de l'apparition de ce disque Franz Liszt et Arvo Pärt, qui lui paraîtra le 31 août. Et puis on a dit tout à l'heure, je le répète, le festival de Chambord, dont vous êtes la directrice artistique, du 30 juin au 14 juillet. Un grand merci.
Merci
Vanessa Wagner.
Merci.
Thank you. Elle a d'abord un clin d'œil à Abel Untunji qui a choisi ce générique fin. Ensuite, au son ce soir, c'était Clément Daté, à la réalisation Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre m'aide à penser cette émission. Vous pouvez la réécouter autant que vous voulez, quand vous voulez, sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h.